BFM Business partenaire.
BFM Stratégie. Avec Frédéric Simotel. Sur BFM Business.
Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie. On va parler de la TV, de la télé. Est-ce que ça est là encore à l'heure du streaming? Et vous savez, il y a une petite révolution qui s'est déroulée aux États-Unis il y a quelques mois. Bien, YouTube est devenu voilà le média le plus regardé. Alors peut-être que si vous avez des enfants, ça ne vous étonne pas du tout. Mais en tout cas, voilà, ça pose beaucoup de questions sur le futur de la télé telle que vous la connaissez aujourd'hui, sur le futur des plateformes, et puis voir comment YouTube va exploiter un peu cette position dominante. Et puis en Europe, bien voilà, comment le marché va-t-il se redessiner? On va parler de tout ça avec Marion Grézon. Bonjour Marion.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice associée au BCG, membre du Centre d'expertise télécom, médias, technologies et marketing. Alors effectivement, les habitudes des téléspectateurs européens ont pas mal évolué ces dernières années.
Oui, tout à fait. Vous le savez tous, là où il y a quelques dizaines d'années, regarder du contenu audiovisuel, c'était rentrer chez soi, allumer la télé,
ouais, et le journal de 20h.
Exactement.
Il reste quand même un grand rendez-vous.
Il reste un grand marqueur, on va en parler. On avait le même programme que son voisin, donc on regardait en linéaire. Évidemment, tout ça a évolué avec notamment l'arrivée de Netflix puis d'autres plateformes. On regarde de plus en plus à la demande et on regarde de plus en plus aussi des vidéos sur YouTube. Et comme vous le disiez, il y a aussi une question de génération. Nous, ce qu'on a cherché à savoir au BCG, c'est qualifier un peu l'ampleur de ce phénomène. Est-ce que c'est différent par génération? Et se poser la question de comment les chaînes de télévision peuvent réagir.
Peuvent évoluer. Et donc, c'est ce qu'on voit, cette fracture générationnelle qui est assez marquée quand même.
Oui, oui, tout à fait. Là où la génération des baby-boomers regarde encore majoritairement la télévision en linéaire, environ 55%, chez la génération Z, c'est seulement 17%. Et en fait, ils passent plus de temps sur YouTube que sur la télévision linéaire telle qu'on la connaissait.
On continue à visionner autant, à zapper autant, mais avant, on zappait d'une chaîne à l'autre. Là, on zappe d'un écran à l'autre. C'est ça qui est en train
de changer. Oui, exactement. C'est-à-dire que la consommation de télé elle-même a baissé. On est environ à 3h20 par Français par jour. Là, on était à 3h40 il y a 10 ans. Mais au total, la consommation vidéo augmente, c'est juste qu'on a plus de sources de vidéos et donc on zappe effectivement de chaînes sur les plateformes de streaming, sur YouTube, et aussi on utilise beaucoup plus des appareils mobiles, le mobile mais aussi les tablettes ou encore les ordinateurs.
Alors je vais m'intéresser à moi-même. Est-ce que justement les médias plus traditionnels, alors on a BFM TV, notre grande cousine, BFM Business, est-ce qu'on doit s'inquiéter alors que ces médias semblaient plutôt être les plus pertinents, en tout cas pour apporter de l'information, du contenu?
Effectivement, moi à titre personnel, je suis persuadée que le journalisme en tout cas a de beaux jours devant lui, et je l'espère fondamentalement parce que je pense que c'est important pour la démocratie. Mais c'est vrai que les chaînes de télévision ont un ancrage national et sont attachés, comme vous l'avez dit, à l'information, aussi au sport en direct, puisque par définition c'est en linéaire. Mais voilà, il y a encore 2/3 des Français qui considèrent que les chaînes de télévision nationale sont pertinentes. Donc il y a vraiment une force sur laquelle il faut capitaliser, mais il faut se réinventer un petit peu.
Et la génération Z, par contre, elle regarde moins tout ça.
Elle considère les chaînes de télévision moins pertinentes, elle les regarde moins, et effectivement, notamment sur l'information dont on parle, ils ont des sources d'informations qui sont assez différentes. Mais ce qui peut être inquiétant dans un monde où il y a des fake news, etc., la télé reste quelque chose en lequel on a plus confiance pour s'informer que d'autres médias.
Alors, les chaînes de télévision dites traditionnelles, bon, elles ne regardent pas le train passé. Elles ont commencé elles ont évidemment depuis un moment lancé leur plateforme en ligne. Certaines, même, on a vu TF1 s'est associé à Netflix. On a vu Amazon, Amazon avec Amazon Prime et avec France TV. Qu'est-ce qui est en train de changer?
Oui, effectivement, les chaînes, sur la base de leur contenu, ont décidé de s'adapter aux habitudes de consommation en créant des plateformes où on peut regarder à la demande. Donc c'est le cas de TF1+, M6+, RMC+ ou France.tv. Mais c'est vrai qu'en termes de notoriété du public, ces plateformes sont encore vues comme des plateformes de rattrapage. Oui. J'ai loupé mon programme, je vais aller le voir le lendemain ou le week-end quand j'ai le temps. Là où Netflix ou Amazon Prime sont vues comme des plateformes de destination. Je rentre, j'allume Netflix et après je me pose la question de ce que je vais regarder. Donc ils ont fait un premier pas, mais ça demande effectivement d'aller chercher l'audience là où elle est, d'où les partenariats que vous mentionnez en se disant c'est les les programmes de TF1, mais ils seront disponibles sur Netflix parce qu'on considère aussi que c'est pas tout à fait les mêmes segments de population qui ont ces.
Mais l'un ne risque pas de cannibaliser, enfin Netflix, parce que je vois mal TF1 cannibaliser Netflix, mais Netflix ne risque pas de cannibaliser TF1.
Bah, on verra ce que ça donne, mais je pense qu'effectivement l'hypothèse c'est de se dire on a un contenu qui est fort, on veut le pousser, mais il faut aller chercher l'audience là où elle est.
Et alors justement, si on se concentre sur l'économie, hein, BFM Business oblige, le modèle des diffuseurs actuels, est-ce qu'il est viable, le business model, voilà, bâti sur la pub, et pas forcément, enfin, à part des chaînes comme Canal+, où il y a l'abonnement, mais...
Oui, c'est vrai qu'historiquement, les revenus sont essentiellement des revenus publicitaires, une part de redevances selon les pays et les évolutions, et du financement public pour les chaînes publiques. Les plateformes sont arrivées et ont changé complètement ce paradigme en proposant un abonnement, et donc finalement, c'est la première fois que c'est le téléspectateur qui paye directement la chaîne. Mais même ce modèle-là arrive un peu à épuisement parce que vous êtes comme moi, on a un abonnement, puis un deuxième, puis un troisième. Au bout d'un moment...
Surtout qu'il augmente l'abonnement. Voilà,
il augmente.
Il reste pas toujours au même tarif.
Ça sature un petit peu. Aujourd'hui, en France, un foyer a en moyenne 2,6 abonnements par foyer, mais ça arrive un peu à saturation. D'où le fait que ces plateformes ont aussi proposé des abonnements moins chers avec de la publicité, mais quand elles font ça, elles viennent grignoter les revenus publicitaires des chaînes historiques. Et donc, tout le monde doit se réinventer parce qu'aujourd'hui, une marque qui fait une campagne de publicité vidéo, elle a le choix entre la télévision, YouTube, Instagram et les plateformes de streaming.
Et là, les Américains apparaissent un peu plus innovants, non ? Ils font beaucoup de formats interactifs en termes de pub. Hein.
Oui, tout à fait. Les plateformes, en fait, déjà, le fait d'être dans des linéaires et donc que chacun regarde son programme permet d'adapter la publicité seulement au segment qui nous intéresse. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est possible, qui est aussi possible sur les plateformes des chaînes, hein, mais qui est très poussé par les plateformes. Et ils font même des formats interactifs, ce qu'on appelle shoppable en anglais, c'est-à-dire qu'on peut directement interagir avec la publicité et aller jusqu'à l'achat d'un produit ou d'un service directement sur la plateforme. Donc c'est très intéressant aussi pour les annonceurs et donc c'est une concurrence forte pour la télévision.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'à la fois ils attirent des annonceurs, puis à la fois ils proposent parfois des services, enfin des offres où on, pour 1€, 2€ de plus, on supprime la pub. Enfin,
Exactement, c'est un modèle un peu hybride en se disant les gens qui vraiment ne veulent pas voir de publicité sont prêts à payer cher et donc on met un abonnement plus cher, mais il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'avoir 3, 4, 5 abonnements différents à 15€ par mois et donc on trouve des modèles un peu entre les deux.
Et alors ici on a l'habitude, notamment dans ces sessions BFM Stratégie, de parler beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA peut aussi changer dans les choses dans ce domaine? Au-delà de la création, on sait que l'IA va aider à créer des films, de l'animation, mais voilà, si on s'intéresse vraiment aux diffusions.
Sur la partie diffusion, l'intelligence artificielle, elle permet d'avoir des algorithmes qui vont recommander les contenus et vous pousser des contenus. Vous l'avez tous remarqué sur ces plateformes. Vous allez aimer, vous avez regardé ça, vous allez regarder ça, etc. Et du coup, c'est vrai que ça incite à la consommation et ça change beaucoup. Et donc là, de la même façon, les chaînes de télévision doivent se mettre au niveau et utiliser l'intelligence artificielle. Et après, sur la création de contenu, il y a un équilibre effectivement à trouver entre l'intelligence artificielle et l'humain.
Vous pensez qu'il y a aussi un rôle de la régulation qui va jouer aussi son rôle dans ce domaine ?
Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, les chaînes de télévision en France sont diffusées à l'intégralité des Français, mais en contrepartie d'un certain nombre d'obligations. Ça va être le pourcentage d'heures diffusées qui sont du contenu français, par exemple, ou le nombre de minutes de publicité, ou même le secteur des publicités. Je vous donne un exemple. Jusqu'à il y a quelques mois ou années, on ne pouvait pas faire une publicité pour un livre à la télévision, par exemple, ou pour le cinéma. Ceux-là ont changé, mais les plateformes internationales n'ont pas ces contraintes. Et donc, il y a une question d'équité entre les chaînes historiques et les diffuseurs internationaux et les plateformes de streaming.
Est-ce qu'il y a d'autres leviers que l'on peut activer ? Là, on a parlé un peu de l'IA, on a parlé de la régulation, notamment en Europe, mais il y a d'autres... je parle pour les diffuseurs européens, mais d'autres leviers qu'ils pourraient activer pour rester compétitifs, justement, face à ces grandes plateformes ?
Évidemment, il y a un problème, enfin en tout cas, il y a une évolution, mais il y a des solutions en face. Notamment, on parlait de l'ancrage national et local, c'est une force sur laquelle les chaînes de télévision nationales peuvent capitaliser, parce que c'est un contenu qui est plus pertinent. Il y a aussi évidemment un sujet de taille. Quand Netflix produit Emily in Paris, ils le produisent pour l'intégralité des téléspectateurs dans le monde, et donc ils peuvent investir des sommes importantes. Donc on voit pas mal de mouvements, notamment en Europe, soit de tentatives de rapprochement entre des chaînes, soit de partenariats sur des sujets pour essayer de faire le poids face à ces géants.
C'est vrai que nos petits films, nos petites séries policières, ça reste quand même très, très français. Hein,
oui, mais ça attire des téléspectateurs. D'accord. Mais c'est vrai que c'est pas des montants. On peut pas se permettre d'investir autant si une série va être diffusée dans le monde mm-hmm. entier ou dans un pays uniquement. Donc, il faut trouver un équilibre entre ces différents formats et potentiellement faire des partenariats avec d'autres chaînes.
Et les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle aussi. On a vu, plusieurs stars du petit écran qui sont montées, qui étaient un peu moins connues. Je pense toujours à Cyril Hanouna qui, au départ, c'était beaucoup plus confidentiel que ce qu'il fait aujourd'hui. Et c'est les réseaux sociaux qui l'ont amené peu à peu. Puis après, voilà, le programme a explosé.
Oui, oui. Tout à fait, et c'est vrai surtout pour les jeunes qui ont grandi avec ces réseaux sociaux et ont une approche assez communautaire au contenu, que ce soit de l'information ou pas, et donc vont suivre une personnalité ou une personne plutôt qu'un programme en général. Et donc effectivement, on les voit monter. La question pour les chaînes, c'est aussi comment travailler avec ces influenceurs. Est-ce qu'il faut les identifier en amont, les pousser? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est dangereux pour nous? Donc c'est tout cet équilibre sur lequel on travaille avec des chaînes européennes pour trouver des solutions.
Et vous pensez que les chaînes européennes, ça y est, elles sont prêtes à justement diversifier leurs revenus? Enfin, elles seront bien obligées de toute façon, mais
Elles essayent de trouver des solutions, effectivement, avec l'équilibre entre le niveau d'abonnement, le sans pub, le avec pub. Mais on voit par exemple que TF1 a annoncé cet été ce qu'ils ont appelé les micro-paiements, qui sont pour un peu moins d'un euro ou quelques euros acheter un épisode, qui existait d'ailleurs avant les plateformes de streaming, qui s'appelait la vidéo à la demande, mais pour avoir des ressources de revenus complémentaires à ce marché publicité sur lequel il y a beaucoup de compétition aujourd'hui.
On entend parler aujourd'hui de la slow TV, c'est quoi exactement?
Exactement, et c'est là que c'est contradictoire, c'est qu'il y a à la fois les vidéos de 30 secondes sur Instagram ou YouTube qui font un carton, et puis cet été on a entendu parler de slow TV, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est des heures entières de programme, par exemple dans une forêt on attend le brame du cerf.
C'est ça, il y a eu un reportage.
Complètement antinomique à cette espèce d'accélération et de format très rapide. Donc il y a vraiment un enjeu de rester à l'écoute de ce dont a envie et a besoin la société pour s'adapter aux besoins et capter finalement cette attention.
Ouais, j'avais vu un reportage aussi, une caméra fixée sur un train qui va dans les pays nordiques pendant 7 heures et puis on a 7 heures de film.
Oui, crois que c'était, il me semble que c'était en Norvège et je crois que la moitié de la population a vu ce documentaire.
Oui, c'était un des plus vus. Bien, merci Marion Grézon d'être venue nous parler de tout ça. Donc l'avenir de la TV, de la télévision à l'heure du streaming, on se pose beaucoup de questions évidemment, et comment les habitudes des téléspectateurs influent sur le marché à la fois du contenu, sur le marché publicitaire. Merci d'être venu nous expliquer tout
merci
ça, Marion
beaucoup.
Grézon, directrice associée au BCG, donc spécialiste des télécoms, médias, technologies et marketing. À très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.